Sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Les courses à Maison Lafitte cet après-midi avec déjà l'arrivée de la première, 11, 5 et 6. Vous écoutez France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, le destin extraordinaire d'une des familles les plus célèbres de l'histoire, les Médicis.
Laissons les Médicis reposer en paix dans leur tombeau de marbre et de porphyre, car ils ont plus fait pour la gloire du monde qu'aucun roi, prince ou empereur. Alexandre Dumas.
D'histoire. Le 22 février 1743, les portes d'un mausolée de Florence se refermaient définitivement sur le cercueil de la dernière représentante d'une des familles les plus célèbres de l'histoire. Avec Anne-Marie Ludovic de Médicis, se terminait l'aventure d'une dynastie dont la réputation avait largement dépassé les limites de la ville sur laquelle elle avait régné pendant plus de 300 ans. Florence, où au XVe siècle, Côme l'Ancien et Laurent le Magnifique avaient inventé la Renaissance. Le berceau d'une famille de banquiers, de commerçants et de mécènes qui a donné des princes, deux papes et même deux reines de France, dont l'épouse de Henri II, l'arrière-petite-fille de Laurent le Magnifique, la très superstitieuse Catherine de Médicis.
Mon doux maître Ruggieri, j'ai besoin de vous.
Oubliez donc votre peine de cœur, madame, vous êtes une Médicis. Préparez-vous donc plutôt à votre glorieuse destinée.
Dites-moi quelle est ma destinée.
Il y a trois hommes à cheval. Ils sont jeunes. Ils ont fière allure. Et ils portent des couronnes.
Ces trois jeunes seigneurs sont vos fils. Tous trois sont appelés à régner. À travers vos fils, vous gouvernerez la France.
Et voici la suite de Catherine.
C'est une armée ?
Patrick Pénaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, en plus de votre émission sur France Inter, Rendez-vous avec X, vous vous intéressez aussi à des histoires plus anciennes que celles que vous nous racontez tous les samedis, et notamment à l'histoire d'une famille extraordinaire que l'on retrouve dans un roman, La Malédiction des Médicis, dont vous venez d'écrire le deuxième volume. C'est l'histoire d'une famille qui a donné quelques personnages célèbres, dont Catherine de Médicis, la femme de Henri II, qui a été aussi la mère de trois rois de France. Mais à l'époque où elle arrivait en France, pour se marier avec Henri II, elle arrivait à Marseille en 1533, les Médicis étaient déjà célèbres depuis deux siècles à peu près. Quand est-ce qu'a commencé leur histoire ?
On peut dire que c'est au début du Quattrocento, comme disent les Italiens, c'est-à-dire
le
au début
siècle.
Du quatrième, du quatorzième, du
quinzième siècle.
Quinzième siècle, pardon. Et c'est là où les premiers Médicis, enfin, les vont faire fortune. Ce sont des gens qui viennent d'une région de douce montagne qui s'appelle le Mugello, qui sont des gens très modestes, qui sont des plébéiens, il faut le rappeler, hein. Donc qui sont pas très bien vus par l'aristocratie florentine, mais qui vont petit à petit démontrer qu'ils ont un sens des affaires extraordinairement développé, parce qu'ils vont, disons franchement, ils vont ruiner petit à petit leurs concurrents banquiers et commerçants. Ils sont à la fois banquiers et commerçants. Hein.
Oui. Mais c'était une ville très très florissante, hein, Florence, sur ce plan-là. C'était même une des plus grandes villes d'Europe à l'époque. Je crois que c'est 50 000 habitants, c'était déjà beaucoup. Hein.
C'est ça, et puis le commerce était très vivace. Hein. On envoyait des tissus de Flandre qui venaient à Florence pour être tissés, pour être décorés, etc. C'était une ville très très active. Et bon, là, les Médicis vont trouver un humus particulièrement riche et ils vont s'imposer de façon péremptoire.
Oui, avec des banques. Alors une banque qui va essaimer d'abord en Italie, à Rome, à Naples, à Venise, et puis alors ensuite dans toute l'Europe.
Bruges, Londres, oui,
Avignon, Lyon, Genève, c'est assez extraordinaire.
Ah oui, ils ont un...
et ils prêtaient à tous les princes ou tous les rois, de, ou tous les papes même d'Europe.
Oui, avec quand même beaucoup plus de prudence que leurs concurrents. Ouais. Parce que prêter à un roi à l'époque, c'était prendre de grands risques, parce qu'on n'était jamais sûr d'être remboursé. Donc ils vont être plus malins que les autres et ils vont acquérir une suprématie certaine. Quoi.
Y compris politique. Il faut rappeler que Florence, à l'époque, Patrick Pénaud, c'est une république. Hein. Ils n'ont jamais été rois. Ils ont été plus tard grand-duc de Toscane, mais ils n'ont jamais été rois. C'était une république dont ils ont été des élus.
Voilà, Médicis. C'est une ville-État, hein, Florence. Et les Médicis, et en particulier Côme l'Ancien, qui est le personnage, à mon avis, le plus emblématique de l'époque, va diriger la ville, mais de façon très maligne, en prenant soin de ne jamais être par-dessus les autres. Il l'est en fait, hein. Mais il est très modeste, il feint de ne pas être le prince, alors qu'il l'est en réalité.
Alors c'est celui que les Florentins ont appelé le père de la patrie, hein, l'homme le plus riche et le plus puissant de Florence au XVe siècle, donc Côme de Médicis, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, Côme de Médicis gouverne Florence de 1434 à sa mort en 1464. Il a bien retenu la leçon donnée par son renard de père sur son lit de mort. N'ayez jamais d'avis contraire à la volonté du peuple. Songez à tenir le peuple en paix et le commerce florissant. Ne vous faites montrer du doigt que le moins possible. Alors, une leçon de prudence et de démagogie qui va faire de Côme un maître très riche, aimé et craint par son peuple. Et il sait très bien que son pouvoir politique, il s'est construit sur sa richesse. Il donne d'ailleurs ce conseil aux autres princes. Soignez bien vos revenus, terre et argent. C'est là ce qui donne grande force en ce bas monde. Alors, cette puissance lui fait aussi beaucoup d'ennemis, hein, parmi les grandes familles de Florence, notamment les Albizzi, qui vont fomenter un complot contre les Médicis, accusés, je cite, d'être des ennemis truculents et très cruels, promoteurs de désastres, incendies et dévastations de tout genre, et malgré leur diabolique nature, tolérés par la singulière bénignité du peuple florentin. Alors, ce complot conduit Côme en exil, mais dès l'année suivante, il réussit à reprendre le pouvoir à Florence, et là, sa vengeance est terrible. Exil, pendaison publique, à ceux qui jugent cette répression bien sévère, Côme répond « Mieux vaut cité dévastée que cité perdue hein. ». Cynique quand même.
Alors, c'est sanglant cette histoire.
Oui. Alors, sa puissance est telle que le pape lui-même dit à Côme « Tu es l'arbitre de la paix, de la guerre et des lois, de la royauté, il ne te manque que le nom ». Alors, l'humaniste Marsilio Ficino, en italien c'est Marsilio Ficino, qui grâce à Côme a créé l'Académie platonicienne de Florence, hein, qui va permettre à la philosophie de Platon d'être connue dans toute l'Europe. Eh bien, il sait ce qu'il doit à son protecteur, qui n'hésite pas à comparer au philosophe. « Je dois beaucoup à Côme, dit-il. Il incarne pour moi les vertus dont Platon m'avait donné la conception. » Éloge aussi, bien sûr, de Machiavel, grand spécialiste en homme politique. « Côme, dit-il, était un homme prudentissime, d'apparence grave et courtoise. Non seulement il surpassa tout le monde en son temps par son autorité et ses richesses, mais encore par ses libéralités et sa prudence. C'est pourquoi, parmi de si turbulents citoyens, écrit Machiavel, Côme retint le gouvernement de Florence dans ses mains durant 31 années. Alors, la réputation de Côme de Médicis dépasse largement les frontières de Florence. Un Français de l'époque admire, je cite, « cet homme digne d'être nommé parmi les très grands. La maison des Médicis, qui était de marchandises, était, dit-il, la plus grande qui ait jamais été au monde. » Et ce Français invite les rois et les princes à ménager justement les Médicis. « Il faut tenir bon terme à ces marchands, dit-il, car ils ne savent à quelle heure ils en pourront avoir besoin. Quelquefois, peu d'argent fait grand service. »
Patrick Pénaud, quand on parle des Médicis, on pense toujours à Laurent le Magnifique. Or, on découvre dans votre livre et dans ces textes que l'on vient d'entendre, un personnage qui était beaucoup plus important que lui. En définitive, c'était son grand-père, c'était Côme l'Ancien.
Exactement, mais Côme l'Ancien a été suprêmement habile. Il a toujours fait preuve de modestie. Ça a été le précepteur politique de Laurent, c'est certain. Il a eu une influence énorme sur son petit-fils, qu'il a instruit personnellement, d'ailleurs. Mais c'était un homme modeste, un homme qui circulait dans les rues de Florence sans équipage, sans garde du corps, ce qui était quand même assez étonnant, hein, à cette époque quand même particulièrement violente. Non, c'était un homme très habile, très aimé du peuple, malgré effectivement la répression dont on vient de faire état lors de son retour triomphal à Florence, c'était un sage.
Il a gouverné pendant 30 ans, de 1434 à 1464. Et alors, quand il est mort, il a légué sa fortune, évidemment, à son fils Pierre, puis à son petit-fils Laurent le Magnifique. Cela dit, pourquoi est-ce qu'il est important? C'est aussi parce que c'est lui qui a initié la Renaissance. C'est pas Laurent le Magnifique plus tard qui poursuivra, bien sûr, cette œuvre. Mais c'est vraiment Côme l'Ancien qui a découvert tous les premiers artistes de la Renaissance italienne, Giotto, Donatello. Pourquoi d'ailleurs avoir dépensé une bonne partie de sa fortune, de la fortune qu'il avait amassée, en soutenant comme ça les artistes?
Et je crois qu'il était, fondamentalement, il était épris de culture. Hein. Il envoyait des émissaires partout en Europe pour retrouver les manuscrits de la Rome antique et de la Grèce antique. Mais je crois aussi qu'il y avait chez lui une volonté politique extrêmement intelligente. Hein. C'est-à-dire qu'il voulait que sa vie, Florence, devienne la plus belle fleur de l'Europe. Mmh. Et c'est vrai qu'il va réussir. Bon, Laurent continuera son œuvre, mais c'est vrai qu'on va retrouver à Florence les plus grands écrivains, les plus grands peintres, les plus grands sculpteurs, et tout ça grâce à ce modeste Côme l'Ancien, toujours vêtu d'une simple robe très modeste, et qui pourtant va être le plus grand mécène, sans doute, avec son petit-fils, le plus grand mécène de tous les temps.
Un mécénat, effectivement, que son petit-fils va poursuivre en portant plus loin encore le soutien aux artistes comme Botticelli, comme Raphaël, comme Léonard de Vinci ou encore Michel-Ange.
À Florence, où mon père vous a reconnu, vous êtes devenu un protégé des Médicis. Je n'oublie pas que mon père vous considérait comme son second fils.
Les artistes vont et viennent comme les papes, les Médicis demeurent.
Les princes et les tyrans ne devraient pas disposer de la vie des artistes.
Vous n'avez rien objecté quand mon père a disposé de la vôtre?
C'était différent. C'était Laurent le Magnifique et c'était un artiste lui-même. D'ailleurs, il n'a pas disposé de ma vie. Il l'a inspiré. Voyez-vous, quand il m'a invité à venir vivre chez vous, vous rappelez-vous, dessiner à quoi ressemblait alors le monde? Du marbre vierge, prêt à prendre la forme qu'on voulait.
Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les Médicis.
Et c'était Era di Maggio, un chant de carnaval du temps de Laurent le Magnifique, par l'ensemble Douce Mémoire. Alors on dit souvent, Patrick Penaud, que le règne de Laurent le Magnifique a marqué l'apogée de la puissance des Médicis. En réalité, c'est aussi avec lui qu'a commencé un peu leur déclin. En fait, il s'intéressait beaucoup plus aux artistes qu'à ses affaires.
Ah, c'est certain. Il va écorner sérieusement le trésor des Médicis que son grand-père a patiemment amassé. C'est vrai qu'il c'était pas un bon gestionnaire, comme on dit aujourd'hui. La banque, ça l'intéressait assez peu, la politique beaucoup plus, et le mécénat encore beaucoup plus. Hein. Donc de ce point de vue, c'est vrai que Laurent est très critiquable.
Et les choses vont encore se compliquer après la mort de Laurent le Magnifique en 1492, hein, l'année où Christophe Colomb découvre l'Amérique. C'est la mort de Laurent le Magnifique. Et alors son fils Pierre va lui-même être carrément chassé de Florence à cause, au fond, de ce qui va faire un peu la ruine des Médicis pendant plusieurs années. C'est la guerre contre la France. Hein.
Oui, la France qui envahit l'Italie. Oui, mais l'Italie est alors la proie des grandes puissances européennes. Chacun veut s'y tailler un fief. Alors, il y a les rois de France d'un côté, il y a les Habsbourg avec les Espagnols. Enfin bon, ça va être une période très très troublée jusqu'au moment où enfin les Médicis, grâce à l'un des papes Médicis, Clément VII, vont quand même pouvoir revenir au pouvoir. Mais c'est une histoire dramatique parce que c'est le duc Alessandro et vous connaissez son,
oui, oui.
son
destin. Alors on y reviendra. Mais vous avez cité le pape. Il y en a en fait eu deux papes, hein, Patrick Pénaud, vous le rappelez. C'est le fils de Laurent, Léon X et Clément VII. Donc la famille des Médicis, au moment où elle est chassée avec Pierre, elle est chassée de Florence pendant plusieurs années, elle règne sur le Vatican.
Ah oui, complètement. Léon X, c'est un très grand pape, hein, mais un pape qui va être à l'origine du schisme chrétien, parce que avec la question des indulgences, il va pousser un certain Martin Luther à devenir rebelle et à s'ériger de façon très ferme contre la politique du Vatican. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi à Léon X, moi j'ai une certaine estime pour lui, parce que c'est aussi un pape mécène. Il va dépenser des fortunes lui aussi pour réunir autour de lui les plus grands artistes. En ce sens, c'est le digne fils de
France, d'ailleurs, oui.
Oui, c'est le digne fils du magnifique. Oui. Hein. Quant au pape Clément VII, qui était son conseiller, alors lui c'était un bâtard. Hein. C'est extraordinaire déjà.
Il y a beaucoup de médicis.
Ah oui, oui, oui. Mais c'est quand même extraordinaire qu'un bâtard accède à la papauté. Oui. Hein. Quant à Clément VII, donc qui était le conseiller de Léon X, malgré une habileté politique indéniable, va avoir une fin assez pitoyable.
En tout cas, Léon X et Clément VII, deux papes qui vont pouvoir compter sur leur famille quand l'Italie sera envahie par les Français et plus tard par les Allemands de Charles Quint.
Le très illustre seigneur Jean de Médicis, capitaine général de l'armée pontificale. Je suis Jean de Médicis, capitaine de l'armée pontificale, et je vous demande le passage. Nous sommes aux trousses des Allemands de Frunzberg. Ouvrez! Au nom du Saint-Père le Pape, et que le Père éternel vous foudroie tous à l'instant.
Alors c'était un des épisodes des guerres d'Italie au XVIe siècle, la bataille de Mantoue en 1526, où un autre Médicis, Jean Médicis, a été tué par un des tout premiers tirs d'artillerie de l'histoire. Alors ça, c'est un personnage qu'on connaît très peu, Jean de Médicis, et pourtant il est tout à fait étonnant, vous en parlez dans votre deuxième volume, Patrick Pénaud, c'est le seul des Médicis qui ait porté les armes, qui était un grand condottiere.
Ah, c'est même le plus grand condottiere de cette époque, hein. Enfin de la vie générale. Non, c'était un homme d'un courage extraordinaire, qui avait été d'ailleurs nommé par Léon X, hein, son parent, son cousin, à la tête des armées pontificales. C'est un homme qui va combattre, à l'époque on combattait pas toujours pour le même personnage, mais enfin il va combattre en particulier pour François Ier, et François Ier dira: si Jean des Bandes Noires, puisque tel était son surnom, Jean des Bandes Noires n'avait pas péri, j'aurais gagné. Mmh. Hein, alors que François Ier, on le sait, va être prisonnier, enfin, fait prisonnier, etc. Donc c'est un personnage d'une bravoure incroyable, d'une grande intelligence. Son meilleur ami va être l'Arétin, par exemple, hein, qui va inventer beaucoup de techniques guerrières, hein, et qui va avoir une vie courte, mais flamboyante. C'est un homme de terrain. C'est un vrai combattant. Et malheureusement, il laissera un peu de côté son épouse, qui est aussi une femme remarquable, petite fille du magnifique Maria Salviati. Et ça, c'est assez triste, parce que leur histoire d'amour, on la connaît, parce qu'ils se sont envoyés nombre de lettres, on la connaît, mais c'est assez déchirant.
Et c'est la mère, enfin, c'est le Jean et sa femme, sont les parents du premier grand-duc de Toscane. Alors, cette époque-là, le début du XVIe siècle, c'est le moment où la République florentine s'est terminée. Hein. Maintenant, on passe à un nouvel État, qui a d'ailleurs été créé par la volonté un peu de Charles Quint, c'est le grand-duché, ou le duché.
Le duché
de Toscane.
Voilà. Hein. Alors, oui, c'est Clément VII, hein, revenons à lui, Clément VII, oui. Le deuxième pape Médicis, impose son bâtard, c'est-à-dire prend Florence, hein, militairement. Ouais. Prend Florence et impose son bâtard, Alessandro.
On avait des fils à l'époque, les
frères. Oui. au duché de Florence. C'est le premier duché, c'est Alessandro. Et puis, vous savez ce qu'il adviendra, Alessandro, qui est un débauché, un homme cruel, qui viole les filles, qui les enlève, enfin bon, c'est épouvantable. Alessandro va être tué par un cousin qui le déteste, mais dont il a fait son affidé, curieusement, son complice de débauche. Et vous connaissez tous son nom, c'est Lorenzaccio. Hein.
De Musset, oui.
Voilà, exactement.
Qui a inspiré Musset. Ouais.
Voilà, exactement. Donc Lorenzaccio tue Alessandro, et là, il y a un jeune homme qui vit à l'écart, parce que sa mère a très peur que le pape Clément VII, qui n'est pas non plus un tendre, le fasse assassiner un jour. Donc ce jeune homme, c'est le fils de Jean des Mondes Noirs et de Maria Salviati. Et il vit à l'écart. Et un jour, il a 17 ans à peine, c'est très extraordinaire. Un jour, il apprend que le duc Alessandro est assassiné. Et ce personnage, cet adolescent, qui appartient à la branche cadette des Médicis, prend une décision fulgurante, il se rend à Florence. Et là, il rencontre les notables florentins qui veulent restaurer la République. Ils se sont débarrassés du duc et ils vont lui permettre d'accéder au pouvoir. Et lui, il va les humilier, il va les maîtriser, il va s'imposer.
Et vous parlez donc de Côme Ier. Qui devient le premier grand-duc donc de Toscane, et un homme qui va faire de Florence la ville que l'on connaît maintenant. Elle existait déjà, hein, sous son ancêtre, Côme l'Ancien, sous Laurent le Magnifique, mais lui, alors il va construire par exemple la galerie, enfin le palais des offices, qui deviendra la galerie d'art que l'on connaît. C'est avec lui, Florence devient quelque chose d'extraordinaire, et en même temps un musée, je crois que c'est sous Côme Ier, qu'a été construite cette espèce de loggia dans laquelle se trouvent toutes les grandes statues de Florence, notamment Donatello, etc. Ça devient un musée, et c'est un peu le déclin aussi de cette ville. C'est l'apogée et le déclin de cette ville avec Côme Ier.
Oui, vous avez raison, dans la mesure où s'en est fini de la République et où Côme Ier va se montrer un vrai dictateur. Hein. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est lui qui a commandé à Cellini et Benvenuto Cellini le son percé, qui se trouve sous cette loggia dont vous parliez. Ouais. Donc, c'est rien n'est jamais noir, rien n'est jamais blanc. Côme, c'est vrai, a beaucoup apporté à Florence.
En tout cas, on parlera plus beaucoup, alors qu'ils vont régner encore pendant 2 siècles à Florence, on parlera plus beaucoup des Médicis, sinon en France, justement, où la petite fille de Côme Ier, Marie de Médicis, devient à son tour, après Catherine de Médicis, elle devient à son tour reine de France en épousant Henri IV.
Sire, le cardinal Alexandre de Médicis, sire, vous propose sa nièce, Madame Marie de Médicis, en mariage. Florence est en ébullition. Madame Marie de Médicis, les chargés d'or et les caisses vides de l'État en auraient bien besoin, hein?
Vous l'avez vu?
Le million d'écus?
Mais non, foutre Marie de Médicis.
Ce moine m'en a fait des portraits, sire, elle a dit fort agréable.
Elle est tendre?
C'est de taille respectable.
Elle est appelle? Non, les Médicis sont tous moricauds. Je ne veux pas d'une noiraude.
Marie de Médicis à la plonteur des Florentins.
Et Henri IV épousera donc Marie de Médicis en 1600, un mariage d'où sont sortis, au fond, tous les rois de France depuis le 19e, jusqu'au 19e siècle, hein, de Louis XIII jusqu'à Louis-Philippe, ils avaient tous du sang Médicis dans les veines.
Oui, c'est d'autant plus extraordinaire qu'ils ont été franchement très souvent méprisés par les grandes familles auxquelles ils se sont alliés.
À cause de leur origine italienne?
Bien sûr, non, pas italienne, mais marchande. Ouais. Marchande, ce n'était pas des aristocrates. Hein. Catherine de Médicis a été très mal accueillie à la cour de France. Marie de Médicis, guère mieux. Et quand il y aura des mariages avec des princes allemands, etc., ça sera toujours la même chose. Hein. Les Médicis vont garder, si je puis dire, leur tare marchande et banquière très longtemps.
Ouais, c'est étonnant. Alors bon, ils vont quand même régner hein, sur la France. Enfin, je parle des rois de France qui descendent de Henri IV et de Marie de Médicis. Alors qu'au même moment, pendant 2 siècles, cette famille, on n'en entend plus parler à Florence. Elle va même disparaître, comme si elle s'était un peu évaporée. La fin est d'ailleurs pathétique, hein, la fin des Médicis à Florence.
C'est terrible, c'est particulièrement émouvant, je trouve, parce que le dernier des Médicis, Jean Gaston, fils de Côme III, au début du XVIIIe siècle, est un être pourvu de grandes qualités, mais malheureusement, il va, sans doute à cause de la rigidité de caractère de son père, qui est un bigot épouvantable, enfin, et un dictateur lui aussi, va très vite se livrer à la débauche. On le marie à une princesse allemande qui ne pense qu'à chasser et qu'une espèce d'ogresse, enfin bon, c'est épouvantable. Et ce pauvre Jean Gaston va petit à petit s'abandonner à ses appétits autant alimentaires que sexuels, et il va finir dans une véritable, comment dirais-je, dans la boue. Il ne quitte plus son lit. Il mange, autre chose aussi sans doute, dans son lit, et c'est, il s'abandonne comme ça. C'est le dernier.
Enfin, c'est le dernier des grands Médicis de Toscane, puisqu'il y a eu sa sœur qui est morte après lui. Elle aussi sans descendance, j'en ai parlé, Anne-Marie Ludovic, qui a légué d'ailleurs tous les biens, tous les trésors des Médicis à sa ville, et s'est arrangé, je crois, Patrick Pénaud, vous me le disiez, pour que jamais la fortune, l'art qu'avaient accumulé les Médicis ne sorte de la ville.
Exactement, ça je trouve ça admirable. Je pense pas que ça soit... qu'Anne-Marie Ludovic ait été une femme exceptionnelle. Mais ce qu'elle a fait là, avant de mourir, c'est pour nous, qui aimons Florence, c'est exceptionnel, effectivement.
Ils ont laissé quand même beaucoup de choses, les Médicis. Oh,
formidable.
À un moment, ils ont disparu.
Allons à Florence.
Absolument. Bah, écoutez, allons à Florence, puis aussi on peut faire un petit passage par vos livres, Patrick Pénaud, dont je rappelle le titre, La malédiction donc des Médicis, deux volumes pour l'instant, qui ont été publiés conjointement par les éditions numéro 1 et France Inter. À lire également Catherine de Médicis, une biographie de Jean-François Solnoux qui vient de paraître chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits de L'Extase et l'Agonie de Carole Reed, distribué par RCV, et puis Le Métier des Armes d'Hermano Olmi et Diane de Poitiers de David Miller, deux films disponibles en cassette vidéo. Enfin, Le Vert Galant, un téléfilm de Pascal Salami et Georges Wodinski, d'après l'œuvre de Monique Lachère, et qui a été diffusé récemment par l'excellente chaîne Câblé Festival. Je rappelle aussi, Patrick Pénaud, que l'on vous retrouve tous les samedis à 13h20 dans l'émission Rendez-vous avec X sur France Inter. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Alain Armstrong et Jean-Philippe Jeanne, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tessert, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, 205.